mois de mars dernier. Le ministère de l'écologie a remis les tout premiers trophées du mécénat d'entreprise pour l'environnement. L'Institut océanographique Paul Ricard et la Caisse d'épargne Côte d'Azur ont été distingués dans la catégorie milieu marin pour la création d'une écloserie polyvalente sur l'île des Ambiers. Une écloserie pour préserver des espèces telles que l'hippocampe, l'oursin ou encore la nacre. Petite visite de cette écloserie avec Philippe Aublanc, responsable technique de l'Institut et créateur de cette écloserie, en compagnie de Patrick Lelon, chercheur en biologie marine à l'Institut océanographique Paul Ricard.
Alors là, oui, on a eu une première ponte il y a un mois et demi à peu près. Donc maintenant, ce sont des petits hippocampes qui font 5-6 cm. On en a 250. On en a d'autres qui sont nés il y a un mois, qui sont donc un petit peu plus petits. Et puis là, on a récupéré 4 autres géniteurs la semaine dernière, dans les temps de taux. Et il y a un papa donc, qui a accouché cette nuit. Et on a des tout petits bébés qui sont nés cette nuit et qui, eux, font à peine un centimètre.
Les explications de Philippe Aublanc.
Pour moi, c'est une passion, en fait, depuis très longtemps. Donc ici, j'ai eu l'occasion de m'investir dans l'écloserie, de la concevoir, de la réaliser, de la monter, d'y travailler tous les jours. Moi, je viens de l'aquaculture industrielle, on va dire. Je faisais du loup et de la dorade avant. Quand je suis arrivé ici, il existait déjà une écloserie, mais qui était délabrée. Donc voilà, j'ai eu l'idée de la ranger, de la reconcevoir pour pouvoir faire une écloserie polyvalente, pour pouvoir travailler sur les espèces menacées.
Ils mangent des animaux vivants. Nous, on les nourrit avec des rotifères, des organismes de toute petite taille qui font moins d'un dixième de millimètre. Et il faut leur en donner beaucoup, vivants, en permanence. Il faut qu'ils puissent croquer quand ils font. C'est un petit peu comme les bébés humains hein, aussi. Il faut leur apporter des biberons souvent. Et plus ils sont petits, plus il faut en apporter souvent. Et le problème à eux, c'est que vraiment, il faut que s'ils n'ont pas pendant quelques heures, s'ils n'ont pas de nourriture, eh bien ils meurent.
En fait, on a plusieurs salles, donc on a 4 salles qui sont climatisées, une qui nous sert à fabriquer des proies du zooplancton, une qui nous sert à fabriquer du zooplancton, une de salle d'élevage larvaire et une qui pour l'instant nous sert de stockage de géniteurs. Et ensuite, on a tout le rôle d'aquaculture sous la serre dans lequel on peut faire plein d'autres manipulations et notamment on peut travailler dans des plus grands volumes.
Alors on est sous une serre, mais l'eau est réfrigérée. Hein, donc ici la température de l'air est relativement chaude parce qu'on est en plein été. Mais on contrôle la température de l'eau. Là elle est à peu près à 23 degrés. Et puis pour conditionner les géniteurs, on dispose aussi d'une salle qui est entièrement climatisée où là on peut mettre la température que l'on veut. Et aussi les qualités de l'eau.
Ce matin on a eu la surprise d'avoir des naissances. Donc il en est né 350 ce matin. Et sur cet après-midi, je ne les ai pas encore comptés. En général, ils naissent au lever du jour. Là, c'est assez exceptionnel qu'ils naissent dans la journée, comme ceux de cet après-midi. Et ils en font entre, ça dépend de la taille des mâles, mais ça varie entre 250 et 500, 600 pour les plus gros.
Ils peuvent avoir des couleurs différentes. Et puis après, quand ils sont à l'âge adulte, de temps en temps, ils prennent des couleurs différentes. Ils sont généralement marrons, mais ils peuvent devenir jaunes ou rouges, certains. Et on ne sait pas trop pourquoi ni comment. C'est temporaire, ils vont rester quelques mois rouges ou jaunes, puis après ils redeviennent marrons.
Ils n'ont pas de réserve vitelline comme beaucoup d'autres poissons, donc il faut les nourrir dès la naissance. Donc dès les premières heures, le premier travail, c'est de leur donner à manger. On produit du zooplancton dans les salles dont je vous parlais tout à l'heure, et on leur apporte tous les jours, voire plusieurs fois par jour, ce zooplancton. Et en fonction de leur taille, on change de type de zooplancton de plus en plus gros en fonction de la taille des petits hippocampes. C'est tous les jours, même les week-ends, parce qu'il faut bien qu'ils mangent tous les jours. Du matin au soir, on les nourrit 3-4 fois par jour. Il faut aussi nettoyer les bassins, surveiller s'il n'y a pas de problème de température. En fait, toute la partie technique de l'écloserie, quoi, les filtres, les éclairages. Enfin, voilà.
Il y a une déperdition ?
Un petit peu, comme toujours, hein, mais selon les méthodes, on varie entre 50 à 90% de survie pour l'instant, ce qui est déjà pas mal.
Ce sont des frères et sœurs. Hein, après, il y en a qui grandissent plus ou moins vite. Hein. Et après, de toute façon, comme souvent dans la nature, dans les élevages, s'il y en a un qui est un petit peu plus grand au départ, c'est lui qui va se précipiter le plus sur la nourriture, donc il va manger plus. Les autres, ils vont forcément manger moins, et donc les différences s'accentuent au fur et à mesure. C'est ça que dans les élevages, pas nous, mais dans les élevages industriels, on fait souvent, on trie pour séparer les gros des petits, pour redonner un peu de tonus aux petits.
Le but, c'est pas de produire des hippocampes, mais c'est de maîtriser l'élevage. Tout ce qu'on aura produit, on va en garder pour notre aquarium déjà. Le reste, on le donnera à d'autres aquariums publics, ce qui évitera des prélèvements dans le milieu. Et si vraiment il y en a beaucoup, on les relâchera dans les temps de taux d'où viennent les géniteurs.
Peut-être l'année prochaine, on va commencer à essayer d'en réimplanter dans le milieu. Donc ceux-là, ils viennent de l'étang d'Auto. On a beaucoup de difficultés pour l'obtenir d'ici. Donc on ne veut pas les relâcher ici de toute façon. Donc on va probablement faire des premiers relâchés dans l'étang d'Auto et suivre ceux qu'on va relâcher. Donc on fait des analyses génétiques, donc on connaît leur code.
Personnellement, c'est un poisson que j'aime bien et sur lequel j'ai travaillé déjà il y a une dizaine d'années. C'est un poisson assez emblématique et qui est en voie de disparition dans certaines parties du monde et plutôt en voie de raréfaction en Méditerranée. C'était intéressant de travailler en vue de la protection. Le phytoplancton, on l'achète dans des laboratoires tels qu'Ifremer. On achète une souche, on nous la donne, et ensuite on la cultive et on garde cette souche qu'on repique toutes les semaines. Et pour le zooplancton, en fait, on a travaillé à partir d'une souche naturelle qu'on a récupérée ici, dans un bassin qu'on a à l'extérieur, dans lequel ils viennent naturellement du zooplancton. Donc on a récupéré cette souche qu'on cultive depuis plusieurs années à l'intérieur.
Et les petites crevettes alors ?
Alors les petites crevettes qu'on donne, ça fait partie du zooplancton, mais c'est un animal qui vit dans les marais salants. Il a donc la particularité de produire des œufs de résistance, puisque les marais salants, par période, ils s'assèchent. Et donc cet animal produit un œuf de résistance qui se déshydrate, qui peut rester déshydraté 10 ans, 20 ans, 100 ans. Dès qu'on le remet dans des conditions favorables, dans de l'eau, il se réhydrate et au bout de 24 heures, on obtient une toute petite crevette. C'est cette crevette qu'on donne à manger aux hippocampes à partir, on va dire, d'un deuxième stade.
Ce sont des œufs qui peuvent être déshydratés, se réhydrater et donner ensuite des crevettes.
Oui, tout à fait. En fait, la crevette pond un œuf qui a la particularité de dès qu'on le déshydrate, il s'assèche, mais il ne meurt pas. Et dès qu'on le réhydrate, même au bout de 10 ans, 20 ans, le processus biologique repart et donne une éclosion au bout de 24 heures. On a pu avoir des moyens grâce à la Caisse d'épargne Provence-Alpes-Côte d'Azur qui nous a financé l'écloserie à hauteur de 100 000 euros, donc c'était quand même très intéressant. Et puis ensuite, je suis en contact avec Voile de Neptune qui se trouve sur l'étang de Thaux à 7, pour lequel on a signé un partenariat il y a 3 jours pour travailler sur l'hippocampe. Eux font plutôt la partie étude in situ de l'hippocampe, donc dans l'étang de Thaux. Ils étudient son comportement, ses lieux de reproduction, en fait tout ce qui se passe dans le milieu naturel. Nous, on travaille plutôt sur la partie élevage en captivité.
En quoi est-ce qu'un hippocampe, c'est intéressant ?
C'est un peu un indicateur du milieu. Hein. Si le milieu est dégradé, ben, l'hippocampe disparaît. Donc partout où il y a des hippocampes, ça veut dire que le milieu est en bon état. Et donc c'est un indicateur de la biodiversité. Voilà, donc c'est quand même intéressant de travailler dessus. Puis c'est un poisson emblématique. Beaucoup d'entreprises l'utilisent comme emblème. On le retrouve même sur des monnaies gauloises. Donc c'est quand même un poisson qui fascine depuis l'Antiquité.
Cet élevage que vous faites, est-ce que vous auriez pu le faire ailleurs qu'à l'Institut où vous avez le sentiment d'avoir une plus grande liberté ?
Je pense qu'ici, j'ai une grande liberté. Une grande liberté, des moyens, un laboratoire à disposition avec des chercheurs. On est sur une île, donc on est assez tranquille. Puis bon, on a mené un outil de travail qui est assez performant. Donc c'est vraiment une bonne opportunité pour travailler sur l'hippocampe et sur d'autres espèces par la suite. Puisqu'on a aussi déjà travaillé sur l'oursin cette année. Donc on a quand même produit 1,5 million cette année et on va sûrement continuer à travailler sur d'autres espèces, notamment la pina, où on va peut-être aussi essayer de maîtriser le cycle larvaire.
D'ailleurs, les petites artémias, c'est la cuisine. Voilà.
Donc on a un projet sur l'hippocampe sur 3 ans. Nous, on fera la partie élevage larvaire. Voile de Neptune à 7 fera la partie de l'étude in situ de l'hippocampe. On a ensuite un laboratoire qui va travailler sur la génétique et un autre sur l'écophysiologie. Donc on aura une étude complète de l'hippocampe qui nous permettra, on l'espère, de pouvoir proposer des mesures de protection, soit par l'élevage, soit par la protection du milieu. On verra les résultats au bout de 3 ans.
Le récif artificiel ?
Les récifs artificiels, ils servent surtout à recoloniser des milieux abîmés, mais dont la qualité de l'eau a été restaurée. Par exemple, si l'herbier a été détruit, il faudra des centaines d'années pour qu'il revienne. Donc, on peut éventuellement implanter un récif artificiel pour faire revenir le poisson, ou tout simplement mettre des récifs artificiels sur des zones où il n'y a rien. Ce qui permet de fixer de la faune. D'abord, c'est la faune fixée qui vient se mettre dessus, et ensuite viennent les poissons. Donc on envisage éventuellement de voir si on pourrait avoir un récif artificiel spécial pour les hippocampes, de manière à éventuellement réimplanter des hippocampes dans les endroits où ils sont disparus. Ils ont tendance à se fixer assez rapidement, donc ils restent dans le même milieu. D'où l'intérêt éventuellement de faire un récif dans un secteur où ils ont disparu, mais que la qualité de l'eau est bonne. À ce moment-là, on pourra peut-être réimplanter des hippocampes. C'est compris dans notre projet sur 3 ans d'études de l'hippocampe, mais comme pour l'instant on n'a toujours pas trouvé de financement, donc on ne sait pas trop quand est-ce que ça va démarrer.